15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Tous les jours de 15h à 16h, nous répondons à vos interrogations. Idées reçues, petits bobos, grand dossier, questions sexo. Dans Sans Rendez-vous, nous abordons tous les sujets sans aucun tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la réduction mammaire. Une opération qui, comme son nom l'indique, permet à des femmes de réduire la taille de leur poitrine. En quoi consiste précisément cette intervention? Y a-t-il réellement des cicatrices très importante, on fera une mise au point avec notre invité, le docteur Nathalie Bricout. Elle est chirurgien plasticien et membre de l'Académie de chirurgie. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'un symptôme qui peut angoisser les parents, la toux chronique chez les enfants. Ensuite, dans notre chronique Les bobos du quotidien, on va parler d'un examen d'imagerie, le PET scan. Savez-vous ce que c'est? À quoi sert ce type de scanner extrêmement précis? On fera le point. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de un sujet souvent mystérieux pour les hommes, comment savoir si une femme a réellement un orgasme, elle nous dira tout.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première, c'est celle de Marie, 31 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed, je m'appelle Marie. En fait, je voulais vous appeler parce que j'étais en train d'écouter votre émission. Et j'ai des problèmes pour avoir un enfant. En fait, ça fait un an que je suis avec quelqu'un et en fait, on n'y arrive pas. Bon, bah, personne ne s'inquiète autour de moi, mais en fait, je voulais savoir si vous pensez que l'insémination artificielle pourrait m'aider. Merci.
Alors Jimmy, on va commencer donc par faire un point sur l'insémination artificielle. Aujourd'hui, je crois que c'est la technique d'ailleurs de PMA, de procréation médicale assistée, qui est la plus ancienne. Mais dans le détail, il s'agit de quoi en fait?
Alors, c'est une technique assez simple qui consiste à déposer le sperme du conjoint ou d'un donneur dans l'utérus de la femme. Et on peut récupérer ce sperme de deux façons, soit de façon naturelle après une masturbation, soit par ponction dans les testicules. Et puis, on utilise ça en première intention après une infertilité inexpliquée depuis 2 ans. Et
oui,
en règle générale...
2 ans, donc là, elle parle d'un an de difficultés. C'est pas encore des difficultés d'ailleurs.
Parfois, au bout d'un an et demi, on commence déjà à l'évoquer, à le mettre
mais
en place.
Mais un an, c'est normal à peu près.
Exactement. Et c'est ce qu'on fait en première intention, notamment lorsqu'il y aurait une infertilité d'origine cervicale, lorsque la glaire est finalement hostile aux spermatozoïdes qui les empêchent de migrer, ou lorsqu'on a des spermatozoïdes qui n'auraient pas forcément la bonne tête, la bonne taille,
vivacité,
la bonne forme, exactement la vivacité. Pas de panique, si on prend 10 papas à la sortie d'une crèche, 8 à 9 sur 10 ont des spermatozoïdes de mauvaise qualité, avec des têtes bizarres, avec des spermatozoïdes qui marchent moins bien, mais pour autant... Ils arrivent
il suffit
à avoir
d'un
des
seul
enfants.
Pour avoir un bébé.
Exactement. Donc prudence avec notamment le message chez les spermogrammes qui peuvent parfois angoisser les papas. On peut se laisser un petit peu de temps, c'est pas impossible d'avoir des enfants.
Alors dans les faits, en pratique, une femme qui bénéficie de cette technique pour avoir un enfant au moment de l'insémination, ça se passe comment en fait?
Alors concrètement, la patiente se trouve en position gynécologique. À ce moment-là, on fait avec un petit cathéter relié à une seringue, on introduit le sperme dans le vagin de la femme qui va jusqu'à l'utérus. La patiente reste allongée durant une trentaine de minutes. On fait un test de grossesse 15 jours plus tard. Si les règles ne sont pas arrivées d'ici là, on peut considérer que l'insémination est réussie. Et puis après 6 essais ou 6 échecs, on passe à la fécondation in vitro pour essayer d'avoir un enfant.
Juste pour terminer, cette insémination artificielle, c'est quel taux d'efficacité? C'est pas efficace à 100%.
Non, mais elle multiplie malgré tout par 2 les chances d'avoir un enfant. Attention aux grossesses gémellaires, le risque est très augmenté. Et puis l'efficacité diminue avec l'âge. Il est de 15% lorsqu'on a 38 ans et puis il tombe à 5% d'efficacité à 42 ans.
Donc c'est pas un bébé assuré non plus. Merci beaucoup Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois c'est Ophélie, 27 ans. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Je vous appelle puisque dans quelques jours je dois prendre l'avion. Sauf que c'est ma plus grande phobie. J'en ai vraiment une peur bleue. J'ai vu qu'on pouvait la soigner ou alors du moins l'apaiser, la diminuer. Mais voilà, qui doit-on consulter? Qui dois-je aller voir? Comment on fait? Est-ce que vous pouvez m'aider? Merci beaucoup.
Alors Jimmy, avant de parler de véritable phobie, il faut quand même préciser que la crainte de l'avion, c'est quand même quelque chose de très fréquent finalement dans la population, au-delà même de la phobie.
Oui, exactement. Un Français sur 3 déclare avoir peur de prendre l'avion. Et là, on parle simplement de gens qui seraient mal à l'aise, qui auraient des craintes, une appréhension, un petit stress, mais qui n'empêche pas de voyager et qui n'aura pas de retentissement ni sur le voyage, ni sur les jours qui précèdent le voyage.
Comment on fait la différence justement entre le phobique vraiment de l'avion ou la personne qui a juste un petit peu peur, quoi?
Eh ben, la phobie, c'est une crainte angoissante, injustifiée, d'une situation ou d'un objet ou de l'accomplissement d'une action. Mmh. C'est quelque chose qui est inadapté. On a conscience que finalement, ce n'est pas très grave et pour autant,
c'est incontrôlable.
C'est incontrôlable. Et parfois, les patients, les jours qui précèdent ce voyage, ont des sensations d'angoisse importantes.
Ça augmente les jours majorer, avec le voyage approchant.
Exactement.
Hein, c'est ça.
Et qui, lors du voyage, vont être dans une situation d'hypervigilance, d'agitation, d'anxiété importante et qui parfois peut les conduire à annuler leur vol et à ne jamais voyager en avion.
Alors, on a fait une émission, récemment sur les phobies. Je crois qu'heureusement, cette phobie de l'avion, comme d'autres, ça peut être pris en charge. C'était le sujet de la question. Comment on prend en charge, qui on consulte, en fait, finalement?
Alors, évidemment, tout dépend du degré de phobie. Il faut savoir qu'il existe des stages contre ces peurs de l'avion, notamment Air France qui en organise un.
Plusieurs compagnies aériennes le font, effectivement.
C'est pas donné, ça coûte dont les 700 euros, mais ça marche très bien. Les patients consulte d'abord une psychologue, on fait des tests avec des simulateurs pour expliquer ce que c'est.
Il y a du théorique, on vous apprend comment ça fonctionne un avion, tout ça, c'est très bien fait.
Et donc à ce moment-là, ça peut aider. Puis dans les cas les plus importants, on peut être obligé d'avoir un suivi psychologique avec un psychologue ou un psychiatre, et ça passe par les thérapies cognitivo-comportementales qui sont efficaces.
On s'habitue finalement à affronter sa peur. Hein,
mais qui marche aussi dans toutes les phobies. Donc à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à consulter. Les résultats sont très bons, mais il faut quelques séances et patienter un petit peu.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors si vous aussi, comme Ophélie qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de la toux chronique chez l'enfant. Et puis, on accueillera aussi notre invité, le docteur Nathalie Bricou, chirurgien plasticien avec qui on va parler de réduction mammaire aujourd'hui. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Europe 1. Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le docteur Nathalie Bricou, avec qui on va parler de réduction mammaire, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez d'un symptôme qui angoisse souvent les parents, la toux, et plus particulièrement la toux chronique chez les enfants. Mais d'abord, pourquoi on tousse finalement?
Alors la toux, c'est un phénomène de défense physiologique. C'est-à-dire qu'il est normal de tousser, il est important de comprendre son mécanisme. Et d'ailleurs, il n'est pas totalement élucidé. On n'est pas totalement sûr de comment ça marche. On sait que néanmoins, ça sert à évacuer les sécrétions et à mobiliser des corps étrangers dont on veut se débarrasser.
Bien sûr.
Et aussi à fluidifier ces sécrétions. Donc c'est un mécanisme de défense. Néanmoins, ça reste un motif très fréquent de consultation, notamment que, surtout que la toux de l'enfant peut révéler soit d'une pathologie chronique qui peut être grave, mais dans l'immense majorité des cas, c'est une petite infection ORL banale qui rentre.
Vous en voyez beaucoup en ce moment en consultation.
C'est la période. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a enregistré des enfants sains, c'est-à-dire en bonne santé, de 8 à 12 ans, en dehors de toute période d'infection. Et on s'est rendu compte qu'il toussait de façon physiologique au moins 11 fois dans la journée.
Oui.
Donc c'est pas parce qu'on tousse qu'on est malade.
Alors à partir de quand on parle vraiment là pour le coup de toux chronique?
Alors on définit la toux chronique à partir de 4 semaines. Par pitié, n'amenez pas votre enfant chez le médecin au 28e jour en disant c'est la catastrophe. On sait que lorsqu'il y a un épisode ORL banal d'infection, une rhinopharyngite, une bronchite, une toux peut persister jusqu'à 2-3 semaines après le début des symptômes. Et le symptôme toux, on a souvent du mal à s'en débarrasser. Il ne faut pas oublier qu'on est en période d'épidémie, beaucoup de virus, et que parfois, les enfants enchaînent des viroses qui laissent penser qu'on a une toux chronique. Or, ils ont une rhinopharyngite.
Sur autre chose. Sur
exactement.
Autre chose,
et à ce moment-là, ils vont tousser un peu plus longtemps. On estime simplement à 10% les enfants qui vont tousser au-delà de 3 semaines. Donc, ça reste assez marginal. Mmh.
Du coup, quels examens il faut faire pour diagnostiquer ça, si besoin?
Alors, lorsque la toux traîne, évidemment, il faut faire une radiographie de thorax. Ça nous permettra d'éliminer une infection, qui est le premier diagnostic qu'il faut rechercher. À ce moment-là, on peut avoir soit une infection pulmonaire authentique, une bronchite surinfectée, parfois un corps étranger qui aurait été inhalé.
Petite pile, un jouet, ça peut
arriver. Alors la pile, c'est dramatique, c'est une urgence, mais une cacahuète, un jouet, et à ce moment-là, la toux peut être chronique. Et puis dans certains cas, on peut avoir des cas de tuberculose qui sont en recrudescence, notamment en Île-de-France. Lorsque la radio est normale, ça peut être simplement un asthme qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas diagnostiqué, un reflux gastro-œsophagien, notamment chez les enfants.
Ah, ça fait tousser, c'est vrai.
Et puis ne pas oublier la coqueluche. La coqueluche donne une toux chronique avec une radio normale qui persiste durant 6 mois. Donc une radio de thorax permet d'éliminer des choses. On regarde aussi la courbe de croissance. Un enfant qui perd du poids, qui grandit moins bien, eh ben ça doit nous alarmer. Et puis en fonction de ce qu'on suspecte, on fait d'autres examens complémentaires. En cas d'asthme, on fait les épreuves fonctionnelles respiratoires à partir de 7 ans pour faire le diagnostic.
Et rapidement, comment on traite cette toux chronique?
Alors la toux, lorsqu'elle est sèche, isolée, sans signe de gravité, avec un enfant qui va bien, une radio normale, on ne fait rien. Par pitié, pas de sirop contre la toux. Ils sont contre-indiqués avant 3 ans. Ils ne servent à rien si ce n'est aggraver la situation. Et en règle générale, on traite la toux en fonction de la pathologie qu'on a en dessous.
Bien sûr.
Une infection, c'est des antibiotiques. un asthme, c'est des corticoïdes ou de la ventoline. Un reflux gastro-œsophagien, c'est des anti-reflux. Et donc, à ce moment-là, les choses rentrent dans l'ordre très rapidement.
Merci, docteur Jimmy Mohamed. Et tout de suite, donc, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est le docteur Nathalie Bricou, chirurgien plasticien et membre de l'Académie de chirurgie.
15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour docteur Bricou.
Bonjour.
Alors, avec vous aujourd'hui, on parle de l'intervention qui permet de réduire la poitrine chez les femmes, chez qui c'est un complexe fort, voire même un handicap. D'abord, dites-nous, est-ce que c'est très fréquent cette intervention? Vous en faites vraiment beaucoup ou pas?
J'en fais beaucoup parce que je ne fais que de la chirurgie du sein. C'est assez fréquent, la fréquence, je ne peux pas vous la donner exactement. C'est surtout très gênant et c'est passé dans les mœurs qu'on peut consulter et qu'on peut trouver une solution à cette hypertrophie plutôt que de souffrir toute son adolescence, sa vie de jeune femme, voire plus longtemps.
Depuis quand vraiment on opère la poitrine pour la réduire, hein? Parce que c'est vrai qu'on parle souvent, vous le faites depuis le début de votre exercice, par exemple, d'opérer de réduire des poitrines.
Oui, depuis les années 80, ça ne me rajeunit pas, mais il y a des techniques de réduction mammaire qui sont décrites dès les années 30 ou 40, ouais, qui ne sont pas aussi au point que ce que l'on fait maintenant, mais ça existe depuis très longtemps.
Et peut-être surtout plus mutilante qu'aujourd'hui. Oui. Jimmy ?
Réduire la poitrine d'une fille ou d'une femme, ça se fait à quel âge en moyenne ?
Alors, ça va dépendre du degré de l'hypertrophie. Il faut déjà que la croissance mammaire soit stabilisée, c'est-à-dire que ça peut vous paraître surprenant, mais cela m'est arrivé d'opérer des jeunes filles de 15 ans pour qui le handicap physique et social est tel que leur vie quotidienne en est affectée. Il faut simplement qu'elles aient arrêté de changer de taille de soutien-gorge.
Il y a 15 ans, il y en a certaines qui ont terminé leur croissance mammaire, entre guillemets.
Croissance mammaire, existe, voire croissance tout court, en les prévenant qu'après l'intervention, pour je ne sais quelle raison, il peut toujours y avoir une petite poussée mammaire complémentaire un ou deux ans après, mais elles sont déjà tellement soulagées que ça va bien et que s'il faut faire une retouche, après tout, c'est selon les mêmes cicatrices, ce qui est important.
Donc à 15 ans, c'est possible, mais en général, elles viennent plutôt après quoi? Après des grossesses ou Alors, c'est quelque chose qui se réfléchit, parfois plusieurs années, j'imagine.
Celles qui viennent après les grossesses, souvent regrettent de ne pas l'avoir fait avant parce qu'elles ont souffert toute leur vie de jeune femme un peu libre. Et finalement, après les grossesses, qu'est-ce qui se passe? Il y a les seins éventuellement fondus, la peau s'est distendue. Elles n'ont rien gagné. Elles ont parfois peur de ne pas pouvoir allaiter. Et c'est pour ça, souvent, qu'elles ne consultent pas avant une grossesse.
C'est ça les freins, où il n'y a pas une peur aussi de « on touche à mes seins, je vais avoir un cancer ou... »
Non, parce que ça, on leur explique que ça n'a aucune relation, que l'on envoie systématiquement tout ce qu'on retire à l'examen histologique, on ne trouve jamais rien, ou exceptionnellement.
Le déclencheur, c'est quoi? C'est le ras-le-bol, quoi. J'en ai marre.
Oui, ras-le-bol de ne pas trouver de soutien-gorge à ma taille, ras-le-bol de ne pas pouvoir faire du sport. La dernière, qui avait 15 ans, est venue en disant « je ne peux pas courir, le poids de mes seins me fait tomber en avant ». J'ai retiré un kilo de chaque côté pour quelqu'un qui était mince.
Ah ouais, il y avait vraiment besoin, effectivement. Oui. Docteur Bricou, on n'en a pas terminé, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on passe donc à la pratique. Quand une femme a décidé de subir une réduction mammaire, comment se passe cette première consultation? D'ailleurs, y a-t-il des contre-indications? On vous dira tout. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Nathalie Bricou, chirurgien plasticien et membre de l'Académie de chirurgie. Alors docteur, une femme débarque dans votre cabinet en consultation. Elle veut donc une réduction mammaire. Lors de cette première consultation, vous regardez quoi en premier? D'abord, vous lui parlez? Enfin, comment ça se passe?
Je la fais parler.
Vous la déshabillez pas tout de suite.
Je lui demande tout simplement pourquoi elle vient, parce que j'aime bien que les gens s'expriment, mais la façon dont ils vont s'exprimer va me donner la clé pour les mots justes que je vais employer pour me mettre à leur portée. Parce qu'on n'emploie pas le même vocabulaire avec tout le monde, même si c'est pour arriver à la même finalité. Donc une fois que je l'ai interrogée sur ses antécédents, c'est la raison pour laquelle elle vient me voir, ses antécédents, ses éventuelles variations de poids, ses prises de poids pendant les grossesses, je l'examine bien sûr, je regarde d'abord quel est son rapport, ce qu'on dit staturo-pondéral, c'est-à-dire si elle a un poids normal pour sa taille ou s'il y a une surcharge pondérale en plus.
Et là, vous n'êtes pas sympa, je crois que vous êtes assez tatillon
sur
le rapport poids-taille.
Je suis assez exigeante pour elle. La qualité du résultat n'est pas la même. Et surtout, si j'opère une patiente en surcharge pondérale, je l'opère, elle se dit « ah ben maintenant mes seins ça va, je ne vois plus que mon ventre et mes fesses et je vais maigrir ben, », le résultat va se dégrader. Parce que l'enveloppe, la peau ne va plus bouger, la surface ne va plus bouger, mais les seins qui contiennent également de la graisse vont fondre et le résultat va
ça va les seins
vont retomber.
Travail, ça serait dommage.
Donc je préfère, je dis, c'est une balance à deux plateaux.
Une carotte, maigrissez un petit peu d'abord
et puis on fait l'intervention après.
Jimmy ?
D'autant plus que, contrairement aux prothèses qu'on peut changer, là il n'y a pas de retour en arrière. Une fois qu'on a fait la réduction, c'est définitif.
si elles maigrissent après et que le sein retombe, il va falloir reprendre ce qu'on appelle la concentration cutanée, c'est-à-dire ça va être selon les mêmes cicatrices, mais c'est une intervention de plus.
Mais elle ne veut pas demander de les regrossir, par contre, ça n'arrive pas normalement.
Alors, ça m'est arrivé de voir des résultats d'une intervention qui avait été indication peut-être pas très bien posée ou mal réalisée, et puis de mettre des implants après, mais c'est hyper exceptionnel. C'est pour ça que chez une jeune fille qui n'a pas eu d'enfant, on laisse des seins un peu plus volumineux que chez une femme qui a déjà eu ses enfants, parce qu'on sait qu'après la grossesse, on peut perdre du volume. Donc, ça serait idiot de réduire des seins pour être obligé de mettre des prothèses après.
Alors ensuite, vous regardez quoi? La qualité de la peau, j'imagine. Comment vous faites pour faire réaliser à la patiente à quoi ça va ressembler après? Il y a un moyen de lui...
Alors d'abord, je mets un doigt dans le sillon sous ma mère et je lui demande de mettre le doigt au-dessus pour sentir ses deux doigts à travers le sein. Et elle a une idée du niveau où va remonter l'aréole.
Le mamelon, enfin la partie où il y a l'air autour du sein. Voilà. D'accord, autour du mamelon.
S'il y a un petit grain de beauté à proximité ou un petit enjeu, on dit, voyez, ça va être là et refaites ce test chez vous. Donc là, elles sont
vous
déjà
le remontez assez haut quand même, le mamelon, alors justement, enfin l'aréole.
Alors il y a des distances à respecter, justement, il ne faut pas passer une aréole trop haute parce que sinon, après, le sillon en dessous, c'est-à-dire l'implantation du sein sur le thorax, ça ne bouge pas. Donc si vous placez l'aréole trop haute, la cicatrice verticale de l'aréole mamelon va être trop longue et ce n'est pas beau. Donc il y a des mesures à prendre et il y a un équilibre à respecter.
Jimmy ?
Et justement, qu'est-ce qu'elle vous demande comme finalement, mesure au final de poitrine ? Combien de bonnets en moins ? Bonnet B, C, D ?
Alors, les hypertrophies, c'est l'inverse des augmentations. Une jeune femme qui n'a pas de sein va dire « je veux un bonnet D, je veux un bonnet D ». Je dis « non, on va faire par rapport à votre silhouette et votre harmonie ». Et celles qui ont une hypertrophie, c'est « alors surtout, vous m'enlevez presque tout, je ne veux même pas un bonnet B ». Je dis « non, parce qu'un bonnet B, c'est vraiment pas grand-chose ». Donc, La bonne explication psychologique, c'est dire on va faire un bon C, un petit D, et on tombe à peu près, selon les formes de soutien-gorge, dans ce qu'on va faire.
D'accord, docteur Bricout, on va continuer cette discussion dans quelques minutes, on reste un petit peu ensemble.
Europe 1.
Dans un instant, on passe donc au bloc opératoire. Comment se déroule cette intervention? Combien de temps aussi cela prend pour réduire une poitrine chirurgicalement? Est-ce qu'on rentre chez soi après ou est-ce qu'on doit passer quelques jours en clinique? On va tout vous expliquer, restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Nathalie Bricout, chirurgien plasticien. Alors docteur, on va terminer quand même cette première consultation pour une jeune femme qui viendrait pour une réduction mammaire. Je crois qu'il y a une question qui fâche entre guillemets, mais qui est absolument nécessaire à aborder, c'est la question des cicatrices, parce que c'est le mauvais côté de cette intervention.
Évidemment, elles sont obligatoires. Donc pour leur expliquer ce que c'est déjà, je leur montre des schémas qui expliquent le déroulement de l'intervention. Donc ça justifie les cicatrices et je leur montre aussi des résultats.
Et c'est quoi les cicatrices alors?
Alors, dans toute plastie mammaire, on a besoin de remonter l'aréole. Donc, il y aura toujours une cicatrice autour de l'aréole, pas du mamelon, autour de l'aréole, à la jonction de la zone pigmentée de l'aréole et de la peau plus blanche.
Là où c'est clair et plus foncé.
Donc, ça fait une limite blanche. Et il faut bien comprendre que, quelle que soit la technique utilisée, il y aura toujours une cicatrice autour de l'aréole.
Mais qui disparaît avec les années,
non.
Hein, qui s'efface.
C'est celle qui se voit le plus parce que l'œil est attiré par le mamelon et l'aréole.
D'accord.
Donc, contrairement à... Parfois, on propose une cicatrice qu'autour de l'aréole. Ça, c'est une catastrophe parce qu'en général, c'est une aréole qui s'élargit en soucoupe. Et en plus, la forme n'est pas satisfaisante.
Et vous faites un T inversé, je crois.
La plupart du temps, c'est le principe d'une robe sur mesure et des pinces qu'on fait, comme en couture, comme chez Chanel ou chez Dior. On fait la peau sur mesure. C'est-à-dire qu'on réduit le volume et on réadapte la peau. Or, la verticale que les patients redoutent alors qu'elle est discrète...
C'est celle qui est sous le sein, en fait.
Non,
hein, finalement.
Elle part de l'aréole, d'accord. Elle va jusqu'au sillon, mais elle est dans une zone du sein qui n'est pas éclairée spontanément, donc on la remarque pas
elle
beaucoup.
Elle blanchit avec les années.
Elle pâlit et elle est à la jonction de deux peaux de même couleur, donc elle est discrète. Et celle qu'on voit le moins, c'est évidemment la cicatrice dans le sillon horizontal.
Jimmy ?
Et une fois que la décision d'opérer a été prise, la patiente, lorsqu'elle est au bloc, elle subit une anesthésie, mais de quel type ? Anesthésie générale ?
Générale, évidemment. Et on opère en position assise.
Ah, pourquoi ?
Parce que la forme des seins couchés, on ne voit rien. Et assis, on voit d'autant mieux. D'autant qu'il y a souvent une asymétrie et que on va souvent au bout de la table regarder si on est bien symétrique. Il faut compter 2 heures pour une réduction mammaire. C'est pas énorme. Il y a 2 seins à faire et pas mal de couture.
Ouais, c'est ça. Et vous enlevez quoi concrètement ? Parce que bon, vous ouvrez, ça on a compris à peu près où. Vous enlevez du muscle, du gras.
Non,
c'est quoi ?
On touche pas, surtout pas au muscle et le pectoral derrière et qui n'a jamais tenu les seins. Sinon, il suffirait de faire de la musculation pour avoir des seins qui se tiennent. Le tissu mammaire lui-même, il est fait d'une proportion variable de tissu graisseux, de tissu fibreux et de tissu glandulaire. Et c'est pour ça que lorsque quelqu'un est en surcharge pondérale avant, et je suis particulièrement exigeante chez les jeunes filles, parce qu'elles peuvent maigrir maigrir facilement si elles le veulent. Il faut maigrir avant parce que de ce tissu graisseux, il y a une partie, on va dire, qui est solidaire du sein, qui ne va pas bouger, et il y a une partie qui va partir avec le poids.
Les femmes, après, c'est souvent un souci. Vous disiez, ça peut être un frein pour certaines. Est-ce qu'elles peuvent, par exemple, vous enlever de la glande mammaire, vous avez dit. Donc, est-ce qu'on peut imaginer qu'on pourra allaiter, par exemple, si on n'a pas eu encore d'enfant?
Alors, bonne question. Si le sein est très distendu, très ptosé, très volumineux, les connexions entre la glande qui reste et le mamelon sont conservées, mais franchement, je pense qu'elles sont quand même un peu altérées.
Si vous en avez déjà eu des patientes qui ont allaité après?
J'ai des patientes qui ont allaité après, mais surtout, je les rassure avant. Je leur dis, de toute façon, les gros seins ne font pas forcément les bonnes laitières. Donc, ce n'est pas parce que vous avez des seins volumineux que vous allez très bien. Donc, vous pourrez, si vous voulez, vous pouvez tenter. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Mais ne vous gâchez pas votre vie de jeune femme parce que vous avez éventuellement envie d'allaiter.
Parce que pour certaines, c'est un vrai handicap hein, quand
oui.
même. Ouais.
Oui.
Jimmy ?
La mode est à l'ambulatoire, c'est-à-dire des patients qui se font opérer et repartent quasiment dans la foulée. Je crois que vous préférez que les patientes restent un petit peu. Pour quelles raisons ?
La mode est à l'ambulatoire pour des raisons économiques et un peu médiatiques. Et on est en train d'en revenir parce qu'en plus, en France, on est très mal équipé pour le suivi d'ambulatoire en ville. Donc, c'est ridicule. Les patientes, c'est une transformation de l'image corporelle. Elles ont besoin d'être rassurées. Donc, passer deux nuits à la clinique, ce n'est pas un problème. Le premier lever chez les toutes jeunes filles, il y a souvent un petit malaise. Donc, si on la renvoie chez elle, c'est pour qu'elle tombe et qu'elle fasse un hématome, ce n'est pas la peine.
Puis, il y a des drains dans les seins.
Moi, je mets toujours des drains parce que je n'aime pas laisser accumuler un petit hématome. Donc, je les garde deux nuits après et tout le monde est content et personne ne le regrette.
Jimmy ?
Quel est le suivi après l'opération ? Je suppose qu'elles doivent vous revoir plusieurs fois ensuite ?
Alors, je les revois évidemment quand elles sortent ou mon assistante, si c'est un jour où je ne suis pas là. Elles ont un rendez-vous systématique à un mois pour les rassurer, pour voir si elles font bien leur pansement. À six mois pour évaluer la stabilisation de la forme.
C'est définitif au bout de combien de temps d'ailleurs la forme qu'on va avoir vraiment?
La forme en 3-4 mois, on l'a.
Parce qu'au début, c'est un peu gonflé, donc ça veut
dire
que ça va
réduire
un peu. Un petit
peu gonflé, mais surtout, on fait trop beau pour être honnête. À la fin, on fait trop rond et trop haut parce qu'on sait que ça va
bomber en l'air.
Oui, en leur disant... C'est trop joli pour être honnête, parce que ça va se détendre. Et il faut hyper corriger.
Ça se détend un peu, ça fait
bien
plus
sûr,
naturel.
Bien sûr, c'est ça
après.
Qui va cacher la cicatrice horizontale. Il ne faut pas que ça se détende trop non plus. Et on fait toujours le point à un an sur la qualité des cicatrices. Les cicatrices peuvent mettre au pire 2 ans à évoluer, mais un an en général, on sait où on en est. On sait que la forme est stabilisée. C'est là où j'en dis, vous savez, il y a quand même 2 seins. Il faut qu'ils soient symétriques, même s'ils ne le sont pas au départ. Donc j'aime bien les réévaluer un an, voir si c'est impeccable.
S'il y a besoin de petites
retouches. Ou s'il y a une petite retouche, qui veut dire une courte anesthésie locale ou générale selon ce qu'il y a à faire. Et je leur propose. Et elles sont rassurées. Et puis si elles n'ont pas envie de le faire, elles ne le font pas. Ou si moi j'estime que ce n'est pas nécessaire, la plupart du temps, ce n'est pas nécessaire. Mais il faut toujours laisser une porte de sortie en disant on aura peut-être un petit geste à faire complémentaire.
Alors pour terminer, c'est quand même donc une chirurgie qui est une chirurgie esthétique. Hein. Combien ça coûte et est-ce que ça peut être parfois remboursé par l'assurance maladie?
C'est une chirurgie plastique. Réparatrice.
C'est pas esthétique, alors,
Si, il faut que ça soit beau. Oui. Mais s'il y a plus de 300 grammes à retirer par sein,
et c'est
parfois
souvent
un
cas.
Peu divisible. Oui, la plupart du temps, on le sait. Il y a une possibilité de prise en charge par la Sécurité sociale parce qu'on considère que ça fait mal au dos, que c'est un handicap fonctionnel. Et évidemment, en ville, on a un complément d'honoraire, puisque on ne peut pas dire dépassement.
Pas dépassement.
Le dépassement est immoral, le complément est normal. La Sécurité sociale n'a pas réévalué les honoraires des chirurgiens depuis 30 ans.
C'est très peu ce que rembourse l'assurance maladie sur chaque sein, je crois.
C'est de l'ordre, je n'ai pas le chiffre en tête, mais ça doit être de 300, autour de 300 euros ou un peu plus. Ce qui veut dire, lorsque vous êtes en ville et que vous avez 80% de charge, il vous reste 60 euros pour 15 ans d'études et 30 ans d'expérience.
Donc
c'est pour ça que le complément d'honoraire est justifié. Mais on remet un devis à la patiente et elles peuvent le fournir à leur mutuelle pour vérifier si leur mutuelle complète ou pas.
Et ça là, arrive. Et c'est une chirurgie qui donne beaucoup de satisfaction, je crois.
Énormément. Énorme. Ça, c'est vraiment des patientes heureuses et transformées dès le lendemain qui ne le regrettent pas.
Merci beaucoup, docteur Bricout, d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on connaît presque tous les secrets de la réduction mammaire, une opération sur mesure à chaque fois, on l'a compris. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique, les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé à un examen d'imagerie. On va parler du PET scan. Savez-vous ce que c'est que ce type de scanner très puissant? On va vous détailler tout ça. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on parle d'un examen d'imagerie. Savez-vous ce qu'est le PET scan? Comme son nom l'indique, c'est un type de scanner. Mais à quoi ça sert véritablement? Benjamin Lévesque a été vous donner la parole sur ce sujet. On écoute son micro-trottoir.
Alors, c'est autre chose qu'un PET sec.
Je sais pas, on dit en général que le PET, c'est les fesses.
Si c'est un scan, c'est un étude de l'imagerie.
De non, ça a pas l'air d'être une maladie, c'est peut-être un examen ou quelque chose qui sert à détecter peut-être un problème.
C'est un examen de vérification.
PET, je suppose que c'est pour l'animal. Scan, c'est pour regarder ce qu'il y a dedans. Donc c'est un appareil qui scanne les animaux de compagnie.
PET scan, est-ce que ça a un rapport avec scan? Donc peut-être détecter quelque chose d'interne, détecter s'il n'y a pas un problème ou une déchirure, une hémorragie ou quelque chose d'interne.
Un PET scan, c'est un examen qu'on fait après avoir eu un cancer. En général, une chimio.
Je pense que c'est un examen qu'on fait à l'hôpital.
C'est un vétérinaire qui doit utiliser ça, non?
Ce genre d'examen, de toute façon, sont très coûteux.
Combien à peu près? Je dirais 200 euros.
Alors Jimmy, bon, il y a quelques contre-vérités quand même dans le micro-trotte. C'est normal, on ne passe pas un PET scan tous les jours. Vous allez nous expliquer cet examen. Parce que, on parle souvent d'examen dans l'émission, mais justement, pour savoir de quoi il s'agit quand on va passer quelque chose, un examen, une radio, un scanner, une scintigraphie, savoir, ça permet de désangoisser. Donc le PET scan, Jimmy, on va expliquer ce que c'est. C'est quand même un examen qui est surtout passé en cancérologie, je crois.
Exactement. Alors, on dit PET scan en anglais, sinon on dit TEP scanner, et ça veut dire tomographie par émission de positrons. Donc c'est un examen isotopique qui consiste à, lorsqu'on injecte un produit qui est un petit peu radioactif, ce qu'on appelle un isotope dans le corps, il va se fixer sur des métastases ou des tumeurs qu'on va pouvoir révéler après un scanner. L'isotope, c'est-à-dire le produit radioactif le plus fréquemment utilisé
dans le PET scan,
PET scan, c'est le FDG, c'est une sorte de sucre fluoré dont la demi-vie n'excède pas 2 heures.
D'accord, donc ça ne reste pas très longtemps dans l'organisme. Alors, le PET scan, c'est utilisé surtout chez des patients qui ont un cancer, je l'ai dit tout à l'heure, mais pourquoi faire précisément?
Alors, c'est un outil de dépistage et de surveillance. Le PET scan sert à détecter des tumeurs cancéreuses et les métastases et à suivre leur évolution. Il faut voir la tumeur comme un amas de cellules qui est en perpétuel renouvellement, qui se divise de façon rapide et pas simplement comme une masse inerte.
C'est quelque chose de dynamique, c'est ça qui bouge,
qui consomme énormément d'énergie. Et les éléments radioactifs permettent de révéler les zones qui consomment de l'énergie. Et à ce moment-là, on peut voir s'il y a une tumeur, des métastases qui sont au risque car elles ont un métabolisme très particulier. Et ce PET scanner permet de les identifier et de suivre l'évolution, notamment chez les patients qui ont été traités.
Alors, comme je l'ai dit, dans ce rendez-vous, on essaye de vous désangoisser en vous expliquant comment ça se passe. Comment ça se déroule précisément cet examen? Vous avez dit, on injecte un produit radioactif d'abord, on attend que le produit diffuse, et ensuite, il se passe quoi?
Et puis ensuite, on s'allonge sur la table de scanner, on passe un scanner classique, le patient passe
le
avec
scanner,
la tube dedans.
Le PET scan, c'est un gros rond, un gros donut, c'est en quelque sorte, dans lequel
exactement.
Ça dure moins longtemps
que l'IRM, donc c'est assez rapide. Et puis, lorsqu'on a ces données, le médecin, sur sa console, à une reconstruction du corps et voit les zones qui s'illuminent, où il y a de la lumière, où ça flash, et c'est les zones anormales qui ont été fixées soit par la tumeur, soit les métastases, et le patient ressort, il n'y a pas de préparation particulière
alors,
à faire.
Ça dure combien de temps par contre à passer? Alors j'imagine que ça dépend de ce qu'on cherche, mais...
Exactement, tout compris, il faut compter une petite heure. Le temps d'arriver, de faire la prise de sang, l'injection, le temps de réaliser l'examen, et donc malgré tout, cette heure est importante puisque ça a vraiment révolutionné la prise en charge et le suivi des cancers. On peut détecter des cancers de toute petite taille et des toutes petites métastases qui auraient mis plusieurs semaines, voire plusieurs mois à être diagnostiquées sur des radiographies ou des scanners classiques. Donc c'est un examen qui reste rare, qui coûte très cher. C'est pas 200 euros, c'est 5 à 6 fois plus. Mais néanmoins, on peut détecter des tumeurs de moins de 5 mm à un stade très précoce.
D'accord. Et juste pour terminer, il n'y a pas de précaution particulière avant de passer cet examen? Je sais pas, il faut être à jeun ou autre?
Non, pas de précaution particulière. Juste, il faut être à jeun environ 6 heures. L'isotope est éliminé au bout de quelques heures. Il n'y a pas d'effet secondaire particulier. En revanche, on peut être allergique, ça peut arriver. Mais lorsque on rentre chez soi, on nous propose simplement de s'hydrater correctement. Et il n'y a pas de mesure particulière à prendre.
S'hydrater pour que l'organisme
élimine le produit.
Voilà, exactement. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, il sera question d'un sujet souvent mystérieux pour les hommes. Comment savoir si une femme a réellement eu un orgasme? Elle nous dira tout. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de cette dernière émission de la semaine, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on va tenter de répondre à cette question qui nous a été posée par Arthur. Je vous la lis. Je suis avec mon ami, IE, depuis quelques mois et je m'interroge, comment sait-on qu'une femme a joui? Catherine, c'est une question que se posent beaucoup d'hommes, ça je crois quand même.
Et oui, parce que les femmes sont quand même peu démonstratives, à moins de, bien sûr, d'émettre des sons, et encore faut-il que ces sons soient en adéquation avec leur ressenti, mais contrairement à un homme où on a tendance à les réduire à l'évidence de ce qu'ils montrent, et c'est une erreur d'ailleurs. Hein,
à l'éjaculation, on se dit un homme a éjaculé, il a joui, ce qui n'est pas toujours vrai.
Voilà, et comme on dit qu'un homme bande, donc il est très excité, ce qui n'est pas toujours vrai non plus. Donc en fait, c'est vrai que nous attendons un peu, enfin les hommes attendent un peu de trouver les mêmes repères dans le corps féminin, et les femmes sont assez discrètes, donc ils cherchent...
Physiquement, il n'y a aucun moyen de dire elle a joui ou pas, on est d'accord.
Non, d'ailleurs c'est assez amusant parce que souvent on lit la pupille qui se dilate, on lit le mamelon qui se contracte, on lit la peau qui réagit, qui fait des frissons, qui a des frissons, etc. En fait, c'est tellement différent, même pour la même femme, dans des temps différents de sa vie. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, effectivement, dans le plaisir, dans la jouissance, automatiquement, des aires du cerveau s'allument, et donc au détriment d'autres aires du cerveau. Alors peut-être on pourrait leur demander une équation mathématique, elles seraient en peine de la faire, puisque notamment la raison est difficile quand on est pleinement dans la jouissance.
Jimmy ?
Mais est-ce que la pornographie n'a pas un peu caricaturé la jouissance féminine avec à chaque fois des choses très expressives qui laissent penser aux hommes que ça doit se passer comme ça systématiquement ?
Bien sûr, et qui enferme du coup les femmes aussi dans un devoir de montrer cette image-là pour rassurer leur partenaire. Donc du coup, effectivement, on s'attend à ce qu'il y ait des cris incroyables, des attitudes un peu de folie. D'ailleurs, ce qu'on disait avant, quand on disait elle est hystérique, comme si elle ne se contrôlait plus, elle était sauvage, etc. Alors que les choses peuvent être jusque-là. C'est-à-dire qu'une femme peut émettre des sons sans du tout l'écouter et sans aimer d'ailleurs ce son si elle l'écoutait, mais peu importe, comme elle peut tout d'un coup accélérer dans son corps ses propres mouvements ou attirer le corps de l'autre et ne plus voir l'homme en tant qu'homme, mais plus que l'objet de son plaisir, et donc l'utiliser en quelque sorte pour aller jusqu'au bout du bout de ce plaisir qui réclame une urgence, une rapidité, etc. Mais c'est tellement facile aussi à fabriquer.
On vous avait pas quand même quelques petits trucs à donner à Arthur? Il veut savoir s'il y a des signes, est-ce qu'il peut, vous avez peut-être des petites indications qui pourraient l'aider? Une femme qui tremble, une femme qui a... Est-ce qu'au niveau du vagin, il se passe quelque chose après l'orgasme? Rien de spécial?
Non, c'est au niveau utérin, parce que souvent l'utérus derrière, mais là, il n'est plus question du tout de pénétration. C'est-à-dire que souvent, une femme, quand elle a eu un orgasme, et bien après même le coït, elle a son utérus qui continue à contracter. Donc c'est après la relation...
Ça, il ne peut pas aller voir dans l'utérus pour voir si ça se contracte.
Non, elle ne peut qu'en témoigner elle-même en disant « je te sens encore en moi », parce qu'effectivement, à ce moment-là, elle sent encore ce rapport, ce qu'elle croyait être l'écho du pénis et qui est en fait ses propres contractions utérines.
Jimmy ?
Pourquoi les hommes veulent absolument savoir si la femme a joui ? Est-ce que c'est pour savoir s'ils ont été performants ou est-ce qu'ils sont préoccupés par leur désir pour savoir si elles aussi ont passé un moment agréable ?
Les deux, mon capitaine.
J'adorerais vous répondre que c'est la deuxième, mais je pense que c'est avant tout la première. Et je ne jette pas la pierre aux hommes, puisque je pense qu'il faut accepter aussi que nous allons tous dans la sexualité au service de notre désir personnel. Donc les hommes ont besoin de trouver leur jouissance, c'est-à-dire leur jouissance physique, mais aussi leur jouissance de pouvoir à faire jouir l'autre. Et les femmes, elles ont une jouissance à faire jouir ou à exciter pour elles-mêmes, pour se rassurer quant à elles-mêmes, comme elles ont de la jouissance à jouir pour elles-mêmes dans leur corps.
En fait, on est tous égoïstes, quoi.
Et tant mieux, parce que là aussi, notre discours sociétal qui veut qu'on soit dans une générosité, on n'a jamais été aussi peu généreux que quand on revendique cette soi-disant générosité. À partir du moment où chacun s'occupe de soi paisiblement, comme il trouve sa paix, il est plutôt généreux avec l'autre. Alors que quand on est toujours, soi-disant, dirigé vers les autres, eh bien les autres nous encombrent, on est agressif avec eux, et en fait on ne fait peu cas d'eux-mêmes.
Mais qu'est-ce qu'on peut lui conseiller, qu'il demande, qu'il pose la question en fait à sa compagne, est-ce que tu as joué, quoi, tout simplement, non ?
Oui, mais je pense que c'est pas est-ce que tu as joué à chaque fois, parce que sinon elle mentira si elle n'a pas joué. Vous comprenez bien que c'est douloureux de dire que l'on n'a pas joué, douloureux pour soi, parce que ça renvoie encore une fois à un manque de pouvoir personnel, et puis douloureux de faire du mal à l'autre que l'on veut rassurer. Donc de temps en temps dire, tu sais, je suis un peu perdu parce que moi, je ne sais pas très bien faire la différence des moments où tu as joui ou tu n'as pas joui, ce qui, du coup, induit qu'il puisse accepter qu'il y a des moments où elle ne jouit pas. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'il faut pouvoir avancer paisiblement là-dedans.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux, comme d'habitude. Alors voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine dans Sans Rendez-vous. Votre émission Santé Bien-être, c'est tous les jours, de 15h à 16h. Mais tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipe sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Après les amateurs, les professionnels, puisque question santé, on reçoit nous Michel Simès. Ça sera un peu plus sérieux que vous. Et oui, l'équipe sauvage aujourd'hui, spéciale santé avec l'ami Michel.
Beau programme, merci Mathieu. Je vous souhaite une bonne émission. Restez sur Europe 1.